C'est écrit pour nous, une émission présentée par le pasteur Paul Calçada.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous avons la joie et le privilège d'accueillir à nouveau dans notre studio de FM Évangile 66 le pasteur Paul Calçada. Sois le bienvenu, Paul, sur cette antenne.
Merci, merci à FM Évangile 66 de m'avoir à nouveau ouvert son antenne. Je souhaite, tout comme toi également, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance.
J'ai lu avec intérêt, et je l'ai beaucoup apprécié, le fascicule intitulé « Artisan de paix ». C'est pourquoi il m'a paru bon d'intituler simplement cette 7e interview « La paix ». Donc, dans un premier temps, les questions porteront sur ce thème. Paul, tu es, comme on dit, une fine plume. Si tu étais un artiste peintre, comment exprimerais-tu la paix ?
Je ne connaissais pas tous ces talents d'artiste. Bon, mais justement, on avait demandé à plusieurs artistes de faire un tableau représentant la paix. Certains avaient peint des tableaux bucoliques, d'autres des colombes avec des rameaux d'olivier. Mais celui qui remporta le prix avait peint un nid caché au creux des branches d'un immense arbre où dormaient paisiblement des oisillons. L'arbre était secoué par une violente tempête, la nature était déchaînée, mais ses frêles oiseaux étaient en paix. En d'autres mots, la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la sérénité dans la tempête.
Les vendeurs de literie insistent sur l'importance de dormir sur un bon matelas. Mais est-ce suffisant? Car certains ont, malgré cela, un sommeil agité.
Au sujet du sommeil paisible, voici comment l'exprime le psalmiste. « Je me couche et je m'endors en paix. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est dans le psaume 4 et au verset 9. « Qui n'a jamais connu la moindre nuit agitée ?» Cela m'est arrivé, comme à beaucoup d'autres certainement. Des nuits où le sommeil semble fuir parce que nous sommes tourmentés par divers problèmes de santé, des problèmes matériels ou familiaux. Ne nous culpabilisons pas à la lecture de ce verset. Ne pensons pas que nous manquons de foi si nos nuits sont troublées. Job a connu des nuits agitées. Il a écrit « J'ai pour mon lot des nuits de souffrance, je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. » On le retrouve dans Job chapitre 7, versets 3 et 4. Or, la Bible prend soin de nous informer qu'aux yeux de Dieu, Job était un homme intègre et droit. Chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul, lui aussi, a connu des nuits sans sommeil, à cause du souci que lui donnaient les églises. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 27 et 28. S'ils ont eu leur lot de nuits agitées, ne soyez pas surpris que cela vous arrive aussi.
Comment donc faut-il comprendre ce texte de la Bible ?
Bien, pour comprendre ce verset, retenons bien ceci. Le psalmiste nous parle du sommeil de celui qui se sent en sécurité dans sa demeure. S'il avait dû vivre dans la rue, sans la protection d'un toit et de portes bien fermées, peut-être n'aurait-il pas connu ce sommeil paisible. C'est le cas de nombreux SDF, qui ont bien plus peur de l'insécurité que du froid ou de la solitude. Pour le psalmiste, la paix était liée au fait de demeurer dans un lieu sûr. D'une manière symbolique, nous pouvons y voir une allusion à ce texte de l'Écriture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Ou encore cet autre texte qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Jean chapitre 15, verset 4. Ainsi, la sécurité et la paix viennent du fait que nous demeurons dans la communion du Seigneur. En demeurant dans cette communion, même si nous traversons des moments d'épreuve comme Job, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et dans cette situation-là, sa houlette et son bâton nous rassurent. Psaume 23, verset 4.
Ceci me fait penser à l'exemple de Pierre, enchaîné, gardé par 16 soldats, sachant que le lendemain, il est destiné à mourir et qui cependant dort paisiblement. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6. Certainement que Pierre a mis en pratique ce qu'il enseigne dans son épître. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. As-tu un conseil à adresser à nos auditrices et auditeurs?
Bien, le conseil, c'est celui que je voudrais communiquer par la parole de Dieu. Alors que vos nuits sont agitées, que vous recherchez la sécurité, la tranquillité, ne recherchez pas la paix, mais cherchez le Seigneur et demeurez en lui. C'est dans cette intimité que vous pourrez vous sentir en sécurité et apaisé.
Comme base à la paix, tu mets en avant la grâce. Qu'en est-il ?
Bien sûr, les 21 épîtres qui composent le Nouveau Testament, 17 commencent par cette formule, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Ainsi, nous voyons que la grâce et la paix vont ensemble. Mais à chaque fois, la grâce précède la paix. C'est pour nous rappeler que la paix découle de la compréhension de la grâce. La paix est fondée sur la révélation de la grâce. La grâce est la fondation sur laquelle se construit la paix. Dieu nous donne sa paix par le moyen de la grâce. Alors que la loi génère la crainte, car elle fait craindre le châtiment, la grâce génère la paix, car elle nous exempte du châtiment. L'enracinement dans la grâce ne fait qu'approfondir la paix intérieure. Cet enracinement fait croître la paix en soi et autour de soi. Le légaliste n'est jamais certain d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire, et cela crée en lui une tension destructrice de paix. Celui qui marche dans la grâce sait qu'il lui reste des progrès à faire, mais sans le poids de la condamnation et de la culpabilité.
Tu parles des légalistes, mais qu'est-ce qu'un légaliste ?
Bonne question. Précisément, le légaliste est celui qui cherche à obtenir la faveur de Dieu en comptant sur tous les efforts, les mérites, les actions, les œuvres qu'il accomplit. Il fait des œuvres pour obtenir la faveur de Dieu. Alors que celui qui se repose dans la grâce de Dieu, ses œuvres sont la conséquence de la grâce. Elles ne sont pas méritoires. Il ne fait pas pour mériter, mais il fait parce qu'il a reçu la grâce.
Donc, pour résumer, disons qu'une expérience qui nous permet de découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ va produire en nous une source intarissable de grâce sur laquelle va s'édifier la paix.
En effet, nous étions perdus, enfoncés dans notre péché, méprisables, et parfois nous méprisant nous-mêmes. Mais il est venu vers nous. Il nous a accueillis comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Il nous a tendu une main secourable, et sa grâce a surabondé là où le péché avait abondé. Nous avons fait l'expérience du pardon absolu, de l'amour sans condition, et une source a commencé à jaillir dans nos cœurs. La grâce de Dieu a envahi notre âme, et nous avons trouvé cette paix véritable. J'aurais une question à poser. Aspirez-vous à cette paix profonde ? Alors découvrez l'immense grâce de Dieu à votre égard. Reconnaissez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Acceptez le pardon que Dieu vous accorde gratuitement au travers du sacrifice de son Fils.
Dans le livre « Artisan de paix », tu parles de paix achetée. De quoi s'agit-il ?
C'est un verset qui m'a amené cette pensée. Ce verset se trouve dans le livre des Juges, je le cite. « Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa pas. » Juges chapitre 1, verset 28. Pour illustrer ce verset, je voudrais faire référence à l'histoire du XXe siècle, marquée par l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Cette histoire nous montre comment Français et Britanniques ont cru pouvoir préserver la paix en acceptant divers compromis avec le Führer. Certains Juifs de la haute société allemande, tels le banquier Max Warburg, commirent la même erreur. La particularité du livre des Juges, c'est qu'il retrace une longue période de l'histoire d'Israël, faite de temps de paix et de temps de conflits. L'origine de ces fluctuations entre paix et guerre se trouve dans le fait qu'Israël avait pensé pouvoir acheter la paix en faisant payer un tribut aux nations qu'il aurait dû détruire. Bien sûr, il faut retenir la valeur symbolique de ces pages d'histoire. On ne peut vivre en paix en faisant des compromis avec le péché. On pourrait dire sous forme lapidaire, le compromis ne paie pas, même s'il semble profitable un instant. Israël tirait profit pendant un certain temps des nations assujetties à un tribut, mais quand ces nations reprenaient le dessus, Israël n'avait plus ni la paix, ni le repos.
Donc, ce que tu rappelles, c'est qu'une paix acquise par un compromis ne sera jamais une paix durable.
En effet, je poserai cette question. Voulez-vous que la paix remplisse votre esprit ? Dans ce cas, n'acceptez aucun compromis avec le péché. Les avantages obtenus par le moindre compromis avec le péché seront rapidement engloutis par l'arrivée de la culpabilité, des angoisses et du remords. Avez-vous des choix moraux à faire ou des choix éthiques ? Souvenez-vous que le compromis ne vous procurera pas une paix durable. J'aimerais à ce sujet vous citer un exemple biblique. Alors que Naomi retourne vers sa patrie, elle suggère à ses belles filles de retourner vers le pays de Moab, dont elles sont originaires, pour qu'elles y retrouvent le repos, synonyme de paix. Ruth, chapitre 1, verset 9. Cela signifiait d'abandonner leur attachement à la foi qu'elles avaient placée dans le Dieu d'Israël. Cela revenait à faire un compromis avec des pratiques idolâtres. Ruth refusera d'une manière absolue ce genre de compromis. Ruth, chapitre 1, verset 16. Nous ne savons rien concernant Orpa qui entra dans cette forme de compromis, mais nous savons que Ruth trouva le vrai repos, la vraie paix auprès d'un homme de paix nommé Boaz. Aussi, nous pouvons prendre une décision en ce jour particulier et dire « Seigneur, toi qui assures la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. » C'est ce qui est écrit par le prophète Ésaïe au chapitre 26 et au verset 3. Donc je décide aujourd'hui, Seigneur, d'être résolu, d'abandonner le sentier des compromis dans lesquels je m'enlise, je m'engage, avec ton aide, à ne plus pactiser avec le péché et à m'attacher à ce qui t'est agréable.
Nous écoutons maintenant une page musicale.
C'est dans la paix que tu dois vivre, enfant de Dieu, disciple du Sauveur. Par son esprit, ton âme doit le suivre sur le sentier de la vie. douceur. Si contre toi s'élève quelque offense, si l'on te hait, si l'on veut t'opprimer, ferme ton cœur à la vengeance. Oui, pour Jésus, pour ce roi tes bonheurs, reçois le coup le plus humiliant. Bois jusqu'au fond de la coupe amère. Comme ton Dieu soit patient. Oui, pour Jésus, pour ce roi tes bonheurs, reçois le coup humiliant. Bois jusqu'au fond de la coupe amère. Comme ton Dieu soit patient. Ce n'est pas toi que...
Paul, une nouvelle question. Comment pouvons-nous contribuer à être des artisans de paix?
Il y a plusieurs éléments de réponse certainement, mais voici un élément qui nous est donné par l'apôtre Paul. Il nous dit « Recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. » C'est dans Romains au chapitre 14 et au verset 19. Dans ce merveilleux chapitre sur la tolérance, l'apôtre Paul nous indique un chemin à suivre pour vivre en paix entre membres d'une communauté chrétienne, mais aussi au-delà des limites d'une chapelle. C'est le chemin du respect mutuel. C'est le chemin de l'acceptation des différences. En un mot, c'est le chemin de l'amour qui est plus grand que nos convictions particulières. Par exemple, saviez-vous que la crèche de Noël plonge ses racines dans la tradition catholique et que le sapin de Noël plonge ses racines dans la culture protestante? En effet, les protestants refusant toute image de Dieu, toute représentation des saints, refusèrent la crèche, laquelle est faite avec des représentations de Marie, de Joseph, de Jésus. Et ils remplacèrent la crèche par un sapin, lequel, bien sûr, était exempt de toute image. De nos jours, crèche et sapin se côtoient dans les diverses communautés. Mais l'essentiel est-il là? Faut-il se faire la guerre pour ce genre d'approche diverse? L'essentiel n'est-il pas de nous souvenir chaque jour que nous vivons, que Jésus est venu sur notre terre pour nous réconcilier avec Dieu, en premier, et aussi avec les autres?
Donc, la première de nos contributions pour être des artisans de paix, c'est d'exercer la tolérance.
Voilà, tu as bien saisi ce que je voulais dire. C'est en tout cas ce que rappelle Paul aux chrétiens de Rome. Alors qu'une discussion a éclaté dans l'église de Rome au sujet des aliments interdits ou permis, l'apôtre demande aux croyants de ne pas se rejeter les uns les autres, mais de manifester de la tolérance les uns envers les autres, en leur rappelant que le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais une question de justice, de paix, et de joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Je vais poser une simple question. Avez-vous quitté une communauté parce qu'il n'y avait pas de sapin de Noël? Ou parce qu'il y en avait un? Vous avez alors oublié que l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, c'est l'amour des autres. La tolérance est une porte ouverte sur la paix. L'intolérance est un boulevard sur lequel s'engouffre la haine, la peur, le rejet. La tolérance jette des ponts. L'intolérance dresse des murs. La tolérance renforce les liens d'amitié. L'intolérance divise des amis. L'intolérance est le terreau du sectarisme. Si vous aimez la paix, si vous voulez être un artisan de paix, vous devrez apprendre la nécessité de la tolérance. Si vous faites de vos convictions personnelles un préalable pour accepter les autres, vous finirez par rejeter les autres. Les divisions au sein des églises naissent de l'incapacité à développer plus de tolérance vis-à-vis d'aspects qui ne touchent pas à l'essentiel de la foi au Christ.
Comme synonyme au verbe « mourir » qui est très général, tu emploies l'expression « partir en paix » quand il concerne les humains. D'où vient cette expression ?
On trouve cette expression dans le livre de la Genèse, au chapitre 15 et au verset 15, lorsque l'Éternel dit à Abraham « Toi, tu iras en paix vers tes pères. » La mort peut être un temps d'angoisse ou un départ paisible. Un père, bien qu'étant athée, permit à son épouse d'envoyer leurs enfants dans une assemblée proche de leur résidence. L'un de ses enfants fut atteint par une grave maladie incurable. Un soir, en rentrant d'une réunion des athées de la région, ce père apprit que son enfant était arrivé au terme de sa vie. Il entra dans la chambre et l'enfant lui dit « Papa, je vais au ciel. Viendras-tu m'y retrouver ?» Quelques instants après, l'enfant expira. Ses paroles restèrent gravées dans le cœur de son père. Dans les semaines qui suivirent, cet homme se trouva au chevet d'un de ses amis athées qui mourait en lui disant « J'ai peur de mourir !» Alors les paroles de son fils lui revinrent à l'esprit et il décida d'aller à l'assemblée le dimanche suivant. Au moment où il entrait dans le temple, le pasteur lisait ce texte « Maintenant que l'enfant est mort, puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » C'est un texte qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 12 et verset 23. Bien sûr, cette parole parla au cœur de cet homme. Dieu utilisait la lecture de ce verset pour parler à cet homme. Interpellé par ce qui venait d'être lu, il décida de mettre sa foi en Christ afin de connaître cette paix dont témoignent ceux qui meurent dans le Seigneur.
Quel exemple de mort paisible mentionné dans la Bible peux-tu nous partager ?
Regardons comment meurt Étienne, le premier martyr de l'Église. Alors qu'il va mourir sous les pierres qui pleuvent de toutes parts, il se met à genoux. Il remet son esprit à Dieu, Actes chapitre 7, verset 59. Quelle paix profonde on ressent dans cette prière de foi.
Les agnostiques, les athées, meurent-ils avec la même paix ?
Bien, l'histoire nous rapporte ce que furent la mort et l'agonie d'incrédules notoires. Voltaire, par exemple, mourut dans d'horribles tourments, comme le rapporte le témoignage suivant. Il est écrit « La rage, le remords, les reproches, les blasphèmes ne laissèrent pas à l'impie un moment de repos pendant sa longue agonie. Sa mort, la plus horrible qui soit restée dans la mémoire des hommes, ne sera point niée par ses amis incrédules. » Nous pourrions multiplier les exemples, mais en quoi bon ? Le seul moyen de partir en paix, c'est de placer sa foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus. J'ai dû accompagner, dans leurs derniers instants de vie, des dizaines de croyants, jeunes ou âgés. Et je les ai vus partir en paix. Ni vous, ni moi, nous ne connaissons le moment où nous devrons partir. Mais vous pouvez, comme je l'ai fait moi-même, placer votre foi en Christ, mort pour vos péchés. Sa paix sera votre partage. Vous pourrez regarder la mort non comme la reine des épouvantements, mais comme le point de passage vers l'éternité, où vous irez à la rencontre du Seigneur.
L'apôtre Paul écrit à Timothée que l'on peut perdre la bonne conscience, comme les dénommés Hyménée et Alexandre. La paix est une situation fragile, il me semble. Comment peut-on la perdre ?
Je prendrai l'exemple d'Adam. La peur est le douloureux sentiment qu'Adam et Ève ont ressenti dès l'instant où ils ont désobéi à Dieu. La paisible relation qu'ils avaient avec Dieu s'est envolée. La paix fut remplacée par la peur. Le climat de paix qui précédait la chute s'est dissipé dans les brumes de la culpabilité. Ce jour-là, la paix s'est éloignée. Le trouble les a envahis. D'ailleurs, Adam répondit à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Genèse chapitre 3, verset 10.
Leur triste expérience nous rappelle que toute forme de culpabilité générée par la perte d'une bonne conscience est destructrice de la paix intérieure.
En effet, je voudrais citer un fait historique. Ayant fait disparaître ses deux jeunes neveux, Richard III, selon l'histoire qui nous en est rapportée, était agité par de terribles cauchemars. Il sautait de son lit et empoignait son épée pour combattre les fantômes de ses victimes. Sa conscience ne lui permettait pas de vivre en paix. Combien d'hommes et de femmes, de tout pays, de toute génération, de toute culture, vivent avec un passé sombre qu'ils essayent d'occulter, mais qui les empêche cependant d'être en paix.
Peut-on sortir de ce trouble intérieur ? Peut-on trouver une issue à ce mal-être destructeur de paix ?
La Bible nous donne l'exemple de David, après avoir commis un double délit, adultère et crime. Le roi David vivait dans le trouble et l'agitation. Il écrit qu'il gémissait nuit et jour, que sa vigueur s'étiolait. Il n'y avait plus ni paix ni joie dans son âme. Et ce trouble a duré jusqu'à ce qu'il cesse d'occulter son double crime et qu'il confesse sa faute. C'est ce que nous retrouvons dans les psaumes 32 et 51 qui retracent toute cette expérience. Votre cœur est-il troublé? Votre conscience est-elle agitée? N'êtes-vous pas en paix à cause de vos fautes passées? Sachez qu'il y a un chemin pour retrouver cette paix qui vous fait défaut. Faites comme David. Confessez à Dieu ce qui vous trouble. La Bible dit, celui qui cache ses fautes, qui cherche à les occulter, qui tente de les oublier, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse aux pieds du Seigneur obtient miséricorde. C'est ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 28 et verset 13. Ainsi, le pardon de vos fautes vous est accordé gratuitement à cause du sacrifice de Christ. Il a payé pour que vos péchés soient effacés, pour que vous soyez justifiés, pour que vous soyez graciés, pour qu'il n'y ait plus la moindre trace de condamnation sur vos vies. La justification qui nous est offerte au travers du sacrifice de Christ devient notre source de paix, comme l'a dit l'apôtre Paul. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 5, verset 1er.
J'ai une confidence à faire. Eh bien, je la ferai après cette pause musicale. Restez avec nous.
Paix, ô mon âme, cieux. Toi te quitter dans un ultime adieu. Dans la vallée de l'ombre et de la peur, Jésus est là pour apaiser ton cœur. Paix au mon âme, ton berger veut combler par ses largesses tout ce qui t'est ôté.
Lors de notre précédente émission, tu nous avais annoncé la parution aux éditions Esdras d'un livre intitulé « GPS céleste » écrit par Daniel Calzada, ton fils. Tu avais dit, je te cite, « Comme un GPS nous ramène vers notre destination, même si nous nous sommes trompés, Dieu a permis à cet homme de retrouver sa destinée. » Livre de 244 pages, vendu au prix de 18,50 €. Et en forme de recommandation, tu avais ajouté ceci. En lisant le livre, chacun pourra mesurer la profondeur de ce qu'il nous partage. Je l'ai lu, et je n'ai pas été déçu, bien au contraire. Ce livre se dévore. Il est enrichissant par le partage d'une expérience forgée dans la souffrance venant d'échecs cuisants, mais aussi dans le service des autres, si différents par leur culture, apprendre leur langue, leur mode de fonctionnement, mais aussi manger comme eux, c'est-à-dire des vers, des araignées et autres œufs couvés. Nous les Catalans, nous mangeons bien des escargots. J'ai apprécié les leçons spirituelles qu'il apporte, à la manière de l'EVA, ne livrant son latex, qui est le caoutchouc naturel, qu'après avoir subi une saignée. La nécessité d'avoir des amis est bien soulignée, y compris pour les pasteurs. Daniel explique très bien tous les dégâts collatéraux qui, parfois, découlent de leur solitude, qui les affectent grandement, et en conséquence, aussi ceux sur lesquels ils ont à veiller. C'est si bien dit que je le cite. Et de fait, certaines églises à la tête desquelles se trouvent des pasteurs sans amis véritables sont devenues des lieux étranges dans lesquels les pratiques, hors du temps, semblent en total décalage et déconnectées avec la réalité de notre monde. Elles ont produit des mystiques, des intégristes, des légalistes, fermés aux autres et repliés sur eux-mêmes.
Elios, ton enthousiasme réchauffe le cœur. Je ne regrette pas d'avoir répondu à ta question lors de la précédente interview. Confidence pour confidence, 2 minutes après la fin de l'émission précédente, les éditions Esdras ont reçu la première commande passée par téléphone. Elle venait d'ailleurs de Perpignan. Depuis, d'autres commandes venant de Perpignan nous sont parvenues.
Peux-tu rappeler, à l'attention de nos auditrices et auditeurs qui sont intéressés, les diverses possibilités de passer commande ? Un petit témoignage apporté par la Tramontane de Perpignan. Une personne qui a lu GPS Céleste a fait ce commentaire, je cite, « Quand on a fini la lecture, on a envie de recommencer afin de mieux savourer certains passages. » En effet, c'est bien exprimé.
Voilà, merci à cette personne pour ce qu'elle a dit dans son commentaire. Alors pour ce qui est de la commande, on peut faire la commande par téléphone au 04 68 40 65 71, je répète, 04 68 40 65 71, ou encore sur le portable 06 09 13 22 13. Je répète, 06 09 13 22 13. On peut aussi passer commande par mail. Alors, c'est tout simple, Paul, P-A-U-L, @, lueur du matin, tout attaché, au pluriel lueur, .fr. Et bien sûr, tout en minuscule. Ou bien écrire encore aux éditions Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200, Lézignan-Corbières.
Revenons au fascicule intitulé « Artisan de paix ». À la page 28 de ce recueil de pensées d'un mois, pensées d'un jour, tu fais référence à un message que tu as apporté dans le grand stade de Kigali au Rwanda. Veux-tu faire pour nous un flashback, en français un retour en arrière, sur ce message approprié ?
Cela s'est passé un an après le terrible génocide qui avait secoué le Rwanda en 1994. Je devais prêcher dans le grand stade de Kigali sur le thème de la réconciliation. Hutu et Tutsi avaient bâti un mur de séparation entre eux. Aussi, mon message s'articula autour de ces versets de Paul aux Éphésiens, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » C'est un texte qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 14. À la fin du message, des milliers de chrétiens hutus et tutsis prièrent ensemble pour leur pays et la paix de leur nation.
Des bâtisseurs de murs, des dresseurs de barrières ont toujours existé. Peux-tu nous donner quelques exemples historiques ?
Bien, par exemple, pour se protéger des Mongols, les Chinois ont bâti la grande muraille de Chine. Pendant le long conflit entre les protestants et les catholiques d'Irlande du Nord, des murailles de briques séparaient les deux communautés. Aujourd'hui, des murailles en béton séparent les communautés juives et palestiniennes en Cisjordanie.
Mais ces murailles sont-elles suffisantes pour garantir la paix ? Ces murailles de séparation, tout en servant à garantir la sécurité, ne contribue-t-elle pas à entretenir un climat d'inimitié ?
C'est ce que l'on pourrait constater, effectivement. Mais heureusement, il y a aussi des renverseurs de murs, des bâtisseurs de ponts. Le mur de l'apartheid ne faisait que creuser un fossé toujours plus profond entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. La séparation, la ségrégation faisaient s'éloigner de plus en plus les perspectives de paix au sein de cette nation. Mais un jour, le président Frédéric de Klerk et Nelson Mandela décident ensemble de renverser ce mur et de construire un pont entre les deux communautés. Alors que la guerre civile aurait pu anéantir cette nation, en renversant le mur de séparation, ces deux hommes furent des artisans de paix. De même, deux femmes irlandaises, Betty Williams et Mairead Corrigan, organisèrent des marches de protestation dans les rues de Belfast, rassemblant des milliers de familles catholiques et protestantes. Elles avaient décidé de construire des ponts et ainsi de renverser les murs de séparation. Jésus-Christ lui-même est venu dans notre monde pour renverser le mur de séparation qui existe entre les hommes et Dieu. Il renverse aussi les barrières qui séparent les hommes entre eux. Jésus nous invite à notre tour à être des bâtisseurs de ponts, à être des artisans de paix. Le prix Nobel de la paix a été donné à ces artisans de paix, à ceux qui ont essayé de renverser des murs et qui ont bâti des ponts. Mais Dieu désire vous accorder une récompense bien plus grande. Il veut que vous soyez déclarés fils de Dieu, parce que vous aurez été des artisans de paix.
Merci Paul pour cet enseignement. Et à toutes nos auditrices et auditeurs, nous disons et nous redisons, la paix soit avec vous. Amen.
Amen.